2019 s'annonce mouvementé au point de vue politique, surtout fédéral, parce qu'on a une autre campagne électorale qui s'amorce. On s'attend à ce que ça joue assez dur, mais 2018 a été marqué bien évidemment par un changement de pouvoir à Québec. Et pour en parler, le chef du bureau parlementaire de Cogeco, mon collègue qui anime le midi sur le réseau ces temps-ci, Louis Lacroix, est avec nous. Salut Louis.
Oui, bonjour Mathieu.
Bon, parlons justement de cette année électorale-là. C'est ce qui a retenu l'attention à Québec, oui, principalement.
Ah oui, tout à fait. Puis bon, évidemment, ça n'a pas été un gros menu législatif parce qu'on préparait une élection, là, puis le gouvernement à l'époque de Philippe Couillard se concentrait beaucoup là-dessus. Recruter des candidats, ils n'ont pas eu le choix parce que les départs se sont faits nombreux, particulièrement au Parti libéral, là, qu'on pense à Robert Poëty, Laurent Lessard, Jean-Marc Fournier, Stéphanie Vallée, David Hurtel et tous les autres qui ont quitté. Il y a eu des départs également au Parti québécois, François Gendron, le vétéran toute catégorie de l'Assemblée nationale qui a pris sa retraite, Alexandre Cloutier, Agnès Maltais, Nicole Léger. Bref, ça a été une année marquée par le renouveau dans des partis où bien souvent on croyait plus ou moins aux chances de l'emporter. Là, c'est, on se comptera pas d'histoire, il peut pas y avoir eu autant de départs chez les libéraux si on avait eu très confiance finalement dans le parti. Alors c'est un peu ce qui a mené cette campagne, cette année-là vers la campagne électorale qui a commencé à la fin de l'été, là, une semaine plus tôt que prévu d'ailleurs, là, et qui a mené à l'élection du 1er octobre dernier.
Quand tantôt tu faisais référence à des changements où on savait qu'il y avait peut-être moins de chances de gagner, à titre d'exemple, j'ai un exemple qui me passe en tête, dans des régions où on a fait le vide, je pense en Estrie, entre autres, tu avais 5 députés libéraux qui étaient là, sur les, même 6, oui, si on prend Broome-Missisquoi, qui est dans la région élargie des cantons de l'Est, là. Et sur les 6, il y en a un seul qui a représenté les couleurs de son parti. Oui. Tous les autres ont annoncé qu'ils ne revenaient pas. Ça donnait déjà le ton un peu, là.
Exactement. Puis tu as même des députés comme Martin Coiteux, par exemple, qui était très solide. Oui. C'est sans doute le plus solide du gouvernement Couillard, qui n'a pas fait de gaffe, mais qui, lui, a décidé de ne pas se représenter à l'élection suivante. Ça donnait un peu l'esprit qu'il pouvait y avoir au Parti libéral à ce moment-là. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, le Parti libéral, en dehors de l'île de Montréal, puis un petit peu là, de façon marginale et même de façon moins forte dans l'Outaouais, là, parce qu'ils ont perdu des plumes dans l'Outaouais également. Alors, le Parti libéral s'est rendu le parti de l'île de Montréal ou de la région de Montréal, parce qu'ils ont quelques députés à gauche et à droite sur la Rive-Nord, entre autres. Mais autrement, là, il y avait quand même une espèce de... Je pense que beaucoup de députés ont pressenti ce qui allait se passer le 1er octobre dernier, ont préféré quitter.
Tu l'as dit, au point de vue législatif, c'était plus tranquille, mais bon, le fédéral a forcé la main aussi du gouvernement provincial, entre autres à cause de la légalisation du cannabis.
Ben c'est ça. L'agenda a été dicté, en tout cas dans le cas du cannabis, puis je pense que c'est la pièce législative la plus importante du gouvernement Couillard en 2018. Ben c'était le projet de loi sur la légalisation du cannabis qui a jeté un peu l'encadrement de tout ça, la création de la SQDC, l'âge légal et puis tout le débat qui a entouré la façon dont on allait intégrer le cannabis dans les habitudes de vie des Canadiens. Et donc, ça s'est fait relativement tranquillement, sauf que là, avec l'arrivée de la CAQ, il faut s'attendre à un durcissement. On a vu le projet de loi qui a été déposé par Lionel Carman tout juste avant les fêtes, qui va porter l'âge légal à 21 ans. Et les caquistes ont l'intention de le faire passer, ce projet de loi-là. Alors, pouvez-vous attendre à ce que ça devienne plus contraignant que de fumer, hein, entre autres, dans les endroits publics. À peu près nulle part, on va pouvoir fumer du cannabis après le projet de loi. Et l'autre projet de loi aussi, qui a quand même jeté une certaine controverse, c'est le projet de loi 62 sur le port des signes religieux, entre autres, mais pour des mauvaises raisons. Souvenez-vous de Stéphanie Vallée, qui venait tout juste de faire adopter le projet de loi 62 et qui ne savait pas comment il allait s'appliquer. Je vous la fais entendre.
Pour prendre un transport en commun, il faut avoir le visage découvert.
Tout le long du trajet.
Tout le long du trajet, ça a été très clair en commission parlementaire.
Pourrait-il y avoir un accommodement raisonnable?
Les demandes d'accommodement seront traitées au cas par cas.
Et là, par la suite, elle a dû revenir en disant, finalement, c'était peut-être pas tout le long du trajet, peut-être juste lors de la prestation de serment, etc. De service. Alors, il y a eu un peu de confusion là-dessus. Mais ça indique justement dans quel dans quelle, en fait, quelle est la complexité de ce projet de loi qui, assurément, va revenir aussi en 2019?
Bon, la campagne électorale, on en parlait tantôt ensemble. Tu as quelques maladresses que tu as réussies, entre autres.
Exactement. Voilà. Entre autres, bon, il y a eu Gertrude Bourdon, l'épisode de la gestionnaire du service de santé ici dans la région de Québec qui s'est présentée, voulait être élue d'abord chez la CAQ, puis après ça chez les libéraux, puis finalement, c'est la candidate malheureuse qui s'est retrouvée sans chaise le 1er octobre dernier. Mais je pense que l'une des maladresses importantes du Parti libéral, ben c'est celle de Philippe Couillard, et je vous la laisse entendre.
L'ex-dragon François Lambert qui a déjà dit qu'on pouvait nourrir un adulte et deux ados pour moins de 75 $ par semaine, vous vous en souvenez. Selon vous, est-ce que c'est réaliste?
Je penserais que oui.
À 75 $?
Oui, mais ben, par contre, les menus ne seront pas très variés. Puis on va être pas mal sur le végétal, j'ai l'impression. Là.
Alors, pourquoi c'est une gaffe importante? Ben d'une part, parce qu'on se rend bien compte que M. Couillard n'a aucune idée de combien ça coûte faire l'épicerie. Mais justement, les gens se sont rendus compte que M. Couillard n'avait pas d'idée du prix de l'épicerie, mais eux autres, ils l'ont l'idée, parce qu'eux autres, ils vont faire l'épicerie à chaque semaine. Alors, c'était le genre de gaffe que tu veux pas faire, parce que tout le monde est capable de s'identifier à cette déclaration-là.
C'est arrivé le soir des face-à-face à TVA en plus.
Exactement. En fait, et là, monsieur, sur nos ondes, ensuite avec Paul Arcan,
oui.
Monsieur Couillard avait essayé d'expliquer, de justifier sa réponse. Souvenez-vous, les recettes qu'il avait données.
Oui, c'est un livre de recettes.
Ouais. Ce livre de recettes. Tu as fait un
rôti de porc,
tu le transformes ensuite en pâté chinois, puis tout ça. Alors, ça a collé, je pense, ouais. À M. Couillard durant cette campagne-là. Ça explique pas la défaite des libéraux, là, mais je pense que ça n'a pas aidé, en tout cas. Chez la CAQ, bien évidemment, toute la question de l'immigration et la méconnaissance du dossier d'immigration de François Legault a sans doute été un point important là, dans cette campagne. On peut l'écouter.
Savez-vous combien de temps il faut rester au Québec et au Canada pour devenir citoyen canadien?
Il y a quelques mois.
La réponse est 3 ans minimum avec la résidence permanente.
Bon.
Alors, bon.
Ouais.
Par la suite, M. Legault a quand même réussi à tourner ça à son avantage en démontrant qu'il n'était pas parfait. Puis même durant le débat, souviens-toi, Mathieu, que M. Legault avait dit, écoutez, je suis pas parfait, ça se peut que je fasse des erreurs. Et cette admission-là a quand même été bien reçue dans la population parce qu'il a connu un succès assez important en campagne électorale.
Et ce qui était d'autant surprenant, Louis, dans l'affaire avec François Legault, c'est que ce sujet-là, c'est lui qui l'a amené sur la place publique.
Ouais.
Donc, tu t'attends à ce que la personne, tu sais, pour ce qui est de Philippe Couillard, qui se fasse prendre sur une affaire d'épicerie, c'est questionnable, mais tu te fais poser la question. Là, pour François Legault, il se faisait poser des questions sur un sujet qu'il avait lui-même décidé d'amener dans le débat. Là.
Exactement. Et puis, il n'y a pas eu juste ça. Là. Il y a eu, souvenez-vous aussi, du test le test des valeurs.
Oh.
Le test des valeurs, bon, est-ce qu'on va le passer? Est-ce qu'on est obligé de le passer pour avoir la citoyenneté? Ensuite, M. Legault a dit, ben écoutez, tout le monde va passer le test. Ça va être tellement facile. Mm-hmm. Alors là, ben ça donnait... Alors, si c'est si facile que ça, pourquoi on le passe? Bref, ça a été des moments peut-être un petit peu plus difficile en campagne électorale pour François Legault, mais on avait quand même le sentiment qu'il y avait un changement qui s'opérait dans les intentions de vote des Québécois. Et Jean-François Lisée l'a bien réalisé lui aussi, constatant qu'il perdait des votes aux mains de Québec solidaire. Ben en débat, il s'est passé ceci.
Qui est le chef de Québec solidaire et pourquoi il n'est pas au débat des chefs?
Je parle des médecins. Ouais.
Est-ce que je peux... Je tiens à poser cette question parce que c'est important comme question préalable.
Non, on est dans la santé, M. Lisée, vous savez, vous connaissez les termes.
J'aimerais poser cette question. Vous avez signé une entente avec nous et ensuite votre chef l'a renié. Alors, pourquoi est-ce que personne ne connaît le chef de Québec solidaire? Vous êtes formidable, Gabriel aussi. Mais c'est comme s'il y avait un chef.
On arrête là, si vous voulez, parce qu'on va revenir vraiment au sujet. Je pense que la maison,
c'est vraiment extraordinaire.
Alors, évidemment, tout le monde était étonné de voir Jean-François Lisée s'attaquer à Manon Massé, qui Manon Massé a mené une campagne vraiment sans faille.
Ouais.
Elle a bien amené son message. Elle est apparue sympathique dans tous les débats, autant même en anglais, où elle a quand même eu un petit peu de misère là parce que c'était pas facile pour elle, mais quand même ça lui a donné un côté sympathique qui a peut-être amené justement beaucoup de gens à voter pour elle plutôt que pour le Parti québécois de Jean-François Lisée. Mais M. Lisée, même à la fin de la campagne, après avoir réfléchi à tout ça, a dit qu'il avait fait une campagne sans faille. Alors, ça, c'est à vous de juger avec les résultats au Parlement aujourd'hui.
Et on a appris qui était le chef de Québec solidaire, c'est Gaétan Châteauneuf.
Exactement. Et là, pour 2019, je vais vous dire, il y a quand même une année importante qui s'en vient. Premier budget d'Éric Girard, le ministre des Finances, ça va être quelque part au mois de mars. Négociations avec les médecins spécialistes, on attend bien sûr la fameuse étude sur le comparatif avec les médecins de l'Ontario et du reste du Canada. Évidemment, la campagne fédérale va prendre une grande part aussi parce que le Québec va vouloir aller chercher sa part du gâteau. Les libéraux de Justin Trudeau vont aussi vouloir plaire à l'électorat québécois parce que c'est un électorat important pour eux. Et il y aura évidemment ce fameux projet de loi sur les signes religieux qui va être déposé quelque part en cours d'année et qui devrait durcir le ton, en tout cas là sur le port des signes religieux aux personnes en situation d'autorité, sans compter qu'il y a deux courses à la chefferie qui devraient s'amorcer en 2019 au Parti libéral et au Parti québécois.
Louis Lacroix, merci infiniment. On t'écoute ce midi.
Ça a été un plaisir. Au revoir.
Salut bien, au revoir. Il est 7h43.